Nos débatteurs aujourd'hui dans Les Experts, Philippe Manière, bonjour, bonjour, président et cofondateur de Vaisolis Communication. Bonjour également Mathieu Blan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, et Jean-Marc Daniel, éditorialiste, économiste, professeur émérite à l'ESCP, qui, allez, on va vous le dire, vient jouer les remplaçants parce qu'on a eu un petit problème. Merci Jean-Marc de nous rejoindre.
Mais il n'y a pas de problème. Il y a eu un problème, il n'y a plus de problème.
Avec Jean-Marc Daniel, il n'y a plus de problème. On va commencer par cette déclaration du FMI qui s'inquiète de la dégradation de la productivité au niveau mondial. Selon le FMI, c'est le principal moteur du ralentissement économique. Et en l'absence de mesures ambitieuses pour inverser la tendance, le Fonds monétaire estime que la croissance mondiale va tomber en dessous de sa moyenne historique. 2,8% par an en moyenne d'ici 2030, c'est-à-dire un point en dessous de sa moyenne historique. On va commencer justement avec Jean-Marc. Pourquoi est-ce que la productivité est en baisse ?
Alors je reviens assez souvent sur cette formule qui avait été mise en avant par un groupe de travail présidé par Philippe Martin qui nous a quittés, hélas. Et dans ce groupe de travail, la formule de conclusion, c'était l'évolution de la productivité était un mystère. D'ailleurs, la conséquence, c'est comme toujours en France, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un conseil. Conseil national de la productivité.
Depuis 2018,
qui maintenant étudie la productivité.
Ça va tout de suite aller mieux.
Il y a des gens qui se réunissent, qui font des rapports très brillants.
Est-ce que ce conseil est productif? Ça, c'est la question.
Mais je sais pas s'il est très productif. Il produit. Alors, est-ce qu'il produit à hauteur de ce qu'il devrait produire? Il produit, il donne des conseils. Alors, je crois que dans l'analyse, il y a une analyse de moyen terme, enfin, de long moyen terme, et puis une analyse de court terme. C'est-à-dire, à long moyen terme, on s'aperçoit quand même que la productivité, et historiquement, et pas uniquement en France, mais dans tous les pays qui sont à ce qu'on appelle la frontière technologique, c'est-à-dire les pays qui sont les porteurs des innovations et de l'avenir, et cette productivité est en train de baisser. Au moment des Trente Glorieuses, c'était 4% par an, l'augmentation. De 1974 à 2003, c'était 2%. De 2003 à la crise Covid, on était redescendu à 1%. Et là, il y a des évaluations où ce serait pratiquement plus de productivité. Alors, la liaison, donc si on regarde maintenant à court terme, bon, il y a des éléments conjoncturels, on met souvent en avant maintenant les apprentis, c'est-à-dire parmi les salariés, maintenant il y a de plus en plus d'apprentis, et par définition, les apprentis, il y a une phase où ils apprennent quelque chose, donc ils sont moins efficaces.
Ouais, et ils seraient responsables d'un tiers de la baisse de productivité en France.
Oui, absolument. Mais il y a ce mécanisme, il existe aussi en Espagne, ce mécanisme de baisse de productivité, je pense, existe aussi aux États-Unis malgré ce qu'on nous raconte, donc je pense que c'est pas uniquement ces éléments. Je crois que des enjeux dans tout ça, vous savez, c'est la différence qu'on fait entre l'innovation et l'invention. L'innovation, c'est quelque chose qui améliore vraiment et le processus productif et le bien-être de la population, qui correspond à une attente de la population. L'invention, c'est quelque chose qui fascine les ingénieurs, qui nourrit des articles dans les presses scientifiques, mais qui ne correspond pas aux besoins immédiats de la société. Et donc, c'est Larry Summers qui donne cette interprétation. Il dit, on est dans une société d'invention et qui a perdu le sens de l'innovation. Et donc là, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, on est fasciné par l'intelligence artificielle, mais les TIC des années 2000...
C'est une partie de la solution, l'intelligence artificielle.
Alors, c'est pas la solution, c'est une illusion. C'est-à-dire, les TIC des années 2000, vous vous souvenez, il y a 20 ans, on nous annonçait que ça allait être un chamboulement, et puis tout ça, bon, après, on nous a dit, oui, il y a le paradoxe de Solow, c'est Solow, cet économiste qui nous a quittés là aussi l'année dernière. Et qui disait que les ordinateurs, on les voit dans les bureaux, on les voit pas dans les statistiques. Alors l'IA, est-ce qu'on la voit dans les premières pages des journaux ? Est-ce qu'on va la voir dans les statistiques ? C'est ça, je crois, l'enjeu.
Mathieu Plane, certains économistes font remarquer que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle en matière d'emploi. Ce sont des chiffres de l'OFCE. Entre 2019 et 2023, on a créé 1,2 million d'emplois en France. Et à productivité constante, on aurait dû en détruire pratiquement 200 000. C'est un de vos collègues, Eric Ayer.
Je connais bien l'étude. Alors, c'est une bonne nouvelle à court terme pour le marché du travail. Hein. Effectivement, c'est d'ailleurs...
Et pour les intéressés, surtout.
Pour les intéressés. On mettant en avant ce paradoxe-là, c'est-à-dire que jamais, finalement, on a créé autant d'emplois avec si peu de croissance. Ce qui est exactement l'inverse des gains de productivité. Ce que disait Jean-Marc, c'est que là, historiquement, on a un ralentissement des gains de productivité. Mais on continue à augmenter quand même la productivité chaque année. Là, le choc est très spécifique, c'est qu'on a eu une baisse du niveau de productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 4 ans après le début de la crise, il faut plus de gens pour générer la même valeur ajoutée. Ce qui est quand même assez incroyable.
Selon les chiffres Eurostat, en France, la productivité, elle a baissé de 3,75% entre 2019 et 2023.
Et nous, si vous regardez la tendance historique, parce qu'on avait des gains de productivité autour de 0,9, c'est comme ça qu'on calcule la croissance potentielle. Hein. En réalité, on a une tendance un peu inférieure à 1%. le décrochage par rapport à la tendance, il est de entre 8 et 9 points. Ça veut dire que c'est énorme, en fait. Hein, et c'est vraiment une question fondamentale, c'est-à-dire pour les années à venir, c'est est-ce qu'on va rattraper ces pertes ou est-ce qu'elles sont complètement structurelles? Et c'est là où on a fait justement ce travail-là. Parce qu'en gros, il y a 1,4 million d'emplois de plus que ce qu'on aurait dû avoir d'habitude. C'est-à-dire que par rapport à une tendance de productivité historique pré-Covid, aujourd'hui, l'économie française, en 4 ans, a créé plus de 1,4 million d'emplois en plus que ce qu'on aurait pu attendre dans un modèle macroéconomique traditionnel. Et dedans, on en explique à peu près 2/3, dont l'apprentissage, mais l'apprentissage, ça fait 300 à 400 000. Il y a un autre effet qui est assez fort, en réalité, qu'on doit retrouver dans pas mal de pays. Il y a eu énormément d'aides pendant la crise, des aides exceptionnelles, et vous regardez les statistiques de faillite, sont tombées au plus bas. Oui. Ce qui est le grand paradoxe.
C'est-à-dire que ces entreprises zombies, elles ont dégradé leur productivité.
Alors, exactement, oui, c'est-à-dire que vous avez... Alors, c'est bien pour les gens qui sont dans ce type d'emploi, parce qu'ils ont été préservés, alors qu'en temps normal, ils auraient été détruites. Donc on voit bien que le calibrage de la réponse de politique publique très forte, avec les taux d'intérêt très bas, a permis de mettre le niveau de faillite très bas, et donc d'avoir des emplois qui ont été préservés alors qu'ils n'auraient pas été.
Mais ça va s'équilibrer, ça.
Alors voilà,
on voit bien que les défaillances d'entreprises ont augmenté fortement.
Alors, voilà, donc du coup, nous, notre prévision, c'est pour ça que d'ailleurs on attend des destructions d'emplois cette année, c'est-à-dire qu'on a une forme de rattrapage partiel des gains de productivité. On rattrape à peu près un sixième, c'est-à-dire que la montée en charge de l'apprentissage est terminée, on est sur un plateau, et puis on revoit le retour des défaillances, c'est-à-dire que la hausse des taux, les PGE, la demande qui atone, etc., fait que, assez logiquement, on retrouve des défaillances, une forme de rattrapage. Donc ça, c'est un rattrapage de la productivité par le bas, quelque part. Mais si on va sur le plus long terme... C'est essentiel, parce que regardez sur les scénarios du Conseil d'orientation des retraites. C'est quoi la variable déterminante? C'est la productivité. C'est les gains de productivité, parce que typiquement, les retraites ne sont pas indexées sur les salaires et sont sur les prix. Et en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce scénario-là, il est extrêmement important. Or, aujourd'hui, on a très peu de débats sur la productivité à venir. Quand vous prenez un choc de moins 8, comme ça, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va les rattraper? Est-ce que, justement, ça joue sur notre croissance potentielle? Et quand on parle de ces gains de productivité, il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans une phase où on a un ralentissement très fort des gains de productivité, voire de baisse, et deuxièmement, de vieillissement des populations. C'est-à-dire que si vous faites la croissance potentielle pour les années à venir, plus les défis écologiques, la croissance peut être assez proche de zéro. On parlait de la stagnation séculaire. La grande question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le nouvel Eldorado de la productivité? Pour le moment, on n'a pas vu ces gains de productivité liés au numérique, la digitalisation, etc. Est-ce que c'est lié au temps de diffusion? Pour le moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et il y en a qui vous disent que, effectivement, les grands gains de productivité sont devant nous. Et d'autres disent, non, c'est terminé, en fait.
Philippe Pannière.
Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Tout a été dit sur effectivement les mystères de la productivité, ce ralentissement mondial, les raisons, explicables localement et pas toutes déprimantes. En particulier, le retour dans l'emploi de gens peu qualifiés, que ce soit effectivement des apprentis ou des gens qui avaient été
évincés
de l'emploi, qui étaient non qualifiés. Parce qu'on parle des apprentis, mais il y a pas que ça. Il y a un retour dans l'emploi, beaucoup de gens qui sont très peu qualifiés. Bon, tout ça, ça fait les déterminants de ce qu'on constate. Moi, je crois que ça c'est une donnée. Effectivement, les gens se rendent pas suffisamment compte à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, alors je sais pas s'il faut appeler ça innovation ou invention, mais une grande rupture du type, je sais pas quoi, électricité, machine à vapeur, chemin de fer, etc. Ça, c'était quelque chose qui faisait, si vous voulez, basculer très profondément l'humanité, en tout cas tous ceux qui avaient accès à ces nouveautés, dans un mode de production qui était incroyablement plus productif. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des choses comme ça. On a eu des choses dont on avait l'illusion qu'elles ressemblaient, puis on constate que non, pas tant que ça. Il y a cette explication. Moi, je crois que dans ce cadre-là, la seule chose qu'on puisse faire ou dire, c'est essayer d'obtenir que, sous cette contrainte, la France essaie d'être aussi productive qu'elle peut l'être. Et de ce point de vue-là, je crois que le fait qu'on continue à créer des emplois publics n'est pas une bonne nouvelle. Parce que, oui, bien sûr, il faut un État qui donne les cadres, qui assume les missions régaliennes, éventuellement qui contribue à un certain nombre de choses dont on considère maintenant, c'est discutable, mais c'est quand même... pas complètement idiot de se dire que l'État a un rôle à jouer dans l'éducation, parce que c'est aussi du capital humain, la santé, pour les mêmes raisons, et puis pour des raisons évidemment extra-économiques évidentes. Après, on voit bien que dans la situation de finances publiques et de productivité où on est, l'idée que l'an dernier, on a créé, je crois, 58 000 emplois publics, et que cette année, on va encore en créer 50 000, ça ne me paraît pas de nature à accroître la productivité moyenne en France. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, alors, on a évoqué, moi, je ne suis pas chorologue, parce qu'il s'est passé tellement de choses au sein du corps, en particulier dans la manière dont ces gens là interagissait. Moi, je suis pas un spécialiste, mais ce que je comprends, c'est que Gilles Berset a enfin imposé qu'on arrête de se raconter des histoires sur le sujet. Enfin, j'y vais à la serre. Mais non, mais parce que que depuis très longtemps, on disait, mais non, il n'y a pas de problème sur les retraites. Regardez, si on postule qu'il y a des gains de productivité de X, alors tout ira bien. Sauf qu'on ne les constate pas ex post. Et puis, on sait bien maintenant, on vient d'en parler pendant 10 minutes, donc ça a l'air d'être de l'eau. Il est assez probable qu'il n'y ait pas de gains élevés et que de toute façon, on n'en sait rien. Donc, ça me paraît raisonnable d'avoir plusieurs scénarios, dont aucun exagérément optimiste. Parce que depuis longtemps, on vit sur des scénarios exagérément optimistes. Donc, sous la contrainte d'une productivité mystérieuse et faible, nous avons, nous, Français, des responsabilités. C'est ne pas trop se raconter l'histoire et puis ne pas tout faire pour se tirer une balle dans le pied en prime de la baisse de la productivité mondiale.
Juste apporter une chose complémentaire pour avoir de la production, c'est de la productivité multipliée par la quantité de travail.
Alors, il y a ça
aussi.
La
qualité multipliée par la quantité. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans un certain nombre de pays, on réagit en disant, bon, il va falloir mobiliser le travail. En France, on a quand même un discours, c'est on va passer à la semaine de 4 jours, au moment du débat sur les retraites, rappelons qu'il y a quand même un droit à la paresse. et sur un sujet qui nous est cher tous les deux, quand il s'agit de savoir si on doit faire grève et tout ça, il ne faut surtout pas que les grèves aient des conséquences sur les vacances. C'est-à-dire que quand le Sénat se mobilise sur le sujet des grèves dans les services publics, ils disent, l'enjeu c'est de ne pas sacrifier les vacances de février. Donc je crois qu'il y a quand même aussi un état d'esprit qui est... Alors on parle de réhabiliter le travail, il va falloir se mettre dans l'idée qu'il va falloir augmenter la quantité de travail. Le passage de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite était dans cette logique. Ouais. Je pense que maintenant il va falloir mettre sur la table la suppression d'un certain nombre de jours fériés, la suppression et la réexamen effectivement des 35 heures.
On met tout le monde dans la rue. Ouais. Mais quand on parle des 35 heures, certains avancent les 35 heures comme étant en partie responsables de la dégradation de notre productivité depuis pas mal d'années, hein, puisque c'est pas récent cette dégradation. Est-ce que c'est un argument politique ou est-ce que économiquement c'est un argument recevable?
Non, je vais laisser la parole après Mathieu, mais normalement la durée du temps de travail, c'est pas la productivité, c'est la quantité.
Donc la productivité, parce que la productivité elle est mesurée
à l'heure, donc c'est la qualité.
On peut travailler moins et être très productif.
On peut, exactement, et normalement c'est la logique de la réduction du temps de travail.
C'est l'histoire.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un calcul de Gilles Berset dont on a parlé pour le corps. Il a rétabli l'évolution de la productivité depuis 1890 en moyenne en France. Elle est de 2,5%, alors que le revenu moyen a augmenté de 1,8%. La différence entre les deux, c'est la réduction du temps de travail. C'est-à-dire qu'on a converti l'efficacité que se mesure la productivité, d'une part en revenu, d'autre part en loisirs, en aménagement du temps de travail. On est dans une phase où il n'y a plus de productivité, donc il faut revenir sur le temps de travail. Et je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est d'augmenter la quantité de travail dont dispose le pays.
Mathieu ?
Oui, non, alors là-dessus, je trouve quand même qu'il y a eu un effet quand même plutôt positif ces dernières années, c'est qu'on voit quand même le taux d'emploi en France qui a quand même augmenté significativement. Si on prend les 20 dernières années, il y a une évolution du taux d'emploi qui est fort, et notamment chez les seniors. Alors, il y a eu les réformes des retraites, notamment, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de politiques de l'emploi, alors qui coûtent cher, hein, d'ailleurs, avec les exonérations de cotisations, qui font que, notamment, on a un taux d'emploi qui a augmenté. Alors, peut-être ça s'est fait, d'ailleurs, il y a une étude de la Banque de France qu'on pourrait discuter, je ne suis pas sûr que les résultats ne soient pas discutables là-dessus, mais qui dit qu'en fait, quand le taux d'emploi augmente, les gains de productivité diminuent.
Oui.
Parce que vous récupérez des gens qui sont à la frontière du marché du travail, qui seraient les moins productifs.
C'est ce qu'on évoquait, c'est ce que dit.
Donc il y a toujours cet arbitrage-là qui existe. Est-ce que le chiffre est juste ou pas? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur la France, fait partie des pays où le taux... Il y a encore des marges de manœuvre, bien sûr, hein, mais le taux d'emploi a quand même beaucoup augmenté. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais créé autant d'emplois, en réalité, en si peu de temps. Après, ça pose la question de la qualité des emplois aussi, et de la productivité de ces emplois. Ça pose la question de la diffusion du progrès technique, ça pose la question de la recherche, pose plein de questions. Mais c'est vrai que là, le décrochage français est quand même... On voit, hein, ce que dit le FMI, c'est que la productivité ralentit partout. Mais la France a un choc qui est particulièrement fort. Et jusqu'à présent, un des atouts de la France, c'était qu'on avait un niveau de productivité qui était élevé. Si vous le preniez en niveau de productivité horaire, il y avait la question du temps de travail, mais le productivité horaire faisait partie quand même des pays où on était le plus efficace, plus productif.
D'ailleurs la réponse qu'on adressait à nos partenaires européens. Exactement. Ils critiquaient les 35 heures, on les est certes, on travaille moins, mais on est extrêmement productif.
Voilà. Il y avait une forme d'arrogance française traditionnelle sur le thème, nous les gars, on n'a pas besoin de bosser autant que vous, puisqu'on est meilleur à l'heure ouvrée. Bon, ça devient un tout petit peu moins. Ça devient un petit peu moins convaincant.
Là, c'est plus défendable. Je le disais, 3,75% de baisse, je le disais, de productivité en France. France entre 2019 et 2023. Au Danemark, la baisse est de 0,6%. Aux Pays-Bas, elle a augmenté de pratiquement 2,5% sur la même période. Et en Italie, elle a augmenté de 1%.
Ah, ouais, il y a un problème de productivité mondiale qu'on a évoqué et il y a un problème spécifique français. Donc là, il y a aussi des choses qui ont été décrites assez bien par un certain nombre de chercheurs. Il y a aussi ce qu'on appelle le désengagement au travail. C'est-à-dire que vous avez quand même quelque chose qu'on constate. Moi, je crois que c'est lié tout de même...
C'est quoi? C'est le droit à la paresse dont parlait Jean-Marc?
Il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a évidemment, heureusement, énormément de Français qui sont très engagés dans leur job. Je ne veux pas donner le sentiment, je pense le contraire. Mais probablement, il y a quelque chose... Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui vont pas chez le médecin quand ils ont rendez-vous avec la fameuse polémique sur la taxe lapin. Je pense qu'il y a un certain nombre de comportements qui n'étaient pas en usage et qui deviennent aujourd'hui suffisamment prévalents pour que ça pèse sur l'engagement au travail, que ce soit en présence ou que ce soit en engagement pendant les heures ouvrées. Je prends juste un exemple. Vous voyez, il se trouve qu'il y a les vacances, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, de printemps, parce qu'on n'a plus le droit de dire Pâques dans la zone C. Bon, regardez le nombre de places de parking qu'il y a à Paris. Je ne veux pas être désobligeant, mais au parking de BFM Business, il y a plus de places que d'habitude. Non, mais je voyais, est-ce qu'il y a 15 ans seulement, on aurait eu autant de gens qui ne... Regardez le nombre de remplaçants, le nombre de gens qui ne sont pas là quand vous appelez, etc. C'est les vacances de Pâques. Avant, les gens ne partaient pas en vacances, ou très peu, marginalement, dans ce qu'on appelait les vacances de Pâques avant. Il y a quand même eu un changement, si vous voulez. Donc, il y a moins de gens.
Et le télétravail aussi, un peu.
Oui, le télétravail, je veux bien, mais le télétravail pendant les congés sur les places de parking, scolaires, parce que le télétravail, il expliquerait la semaine dernière, quand c'était pas les vacances scolaires, c'était blindé. Donc il y a un truc, si vous voulez, qui n'est pas très descriptif. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse statistique de tout ça, mais il me semble qu'il y a quand même une espèce de désengagement d'atmosphère, et ça se mesure forcément dans la productivité. Alors je crois que ça, c'est lié aussi à l'idée que les gens se font du pays. Si vous êtes optimiste, si vous pensez que le pays va s'en sortir, si vous pensez que vous avez votre place dans la société, vous êtes plus motivé pour bosser, être présent, interagir avec votre employeur, vos collègues, etc. Si vous pensez que tout est foutu, ce qui est malheureusement l'opinion d'une part croissante de nos concitoyens, il y a moins de raisons de s'engager. Donc moi, je crois que notre cas particulier de la productivité, de la productivité en France, on voit bien qu'il est plus grave qu'ailleurs pour des raisons qui sont spécifiquement françaises par définition, et je pense qu'elles sont à rechercher dans ce domaine-là que je viens de décrire encore une fois de manière un peu impressionniste et pardonnez-moi, je crois que ça existe malgré tout.
Petite parenthèse sur les États-Unis, on nous dit que la productivité augmente aux États-Unis. Regardez, c'est spectaculaire. Jean-Marc, je crois que vous êtes un petit peu dubitatif sur les chiffres américains.
Oui, je suis un peu dubitatif parce que quand on regarde l'évolution des chiffres sur les États-Unis, on s'aperçoit que... Alors, on a des données statistiques très, très vite. On a l'indice des prix du mois, le jour même, où le mois s'achève, etc. Bon. Et puis, alors, on se précipite là-dessus, on commente, et puis après, c'est révisé abondamment. Et quand on regarde les révisions, on s'aperçoit que l'évolution de la productivité aux États-Unis est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on pourrait penser. Et surtout, ce que disent bien les statisticiens, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, on fait toujours un petit mot de fin d'émission.
Oui.
Oui, oui. Donc ce sera statistique, mon petit mot. Donc j'aurai l'occasion d'en revenir là-dessus. Et pourquoi ? Parce que les statisticiens américains expliquent bien qu'ils ont de plus en plus de mal à faire le partage entre les prix et les volumes. Et les volumes. Que l'évolution de l'économie américaine est telle que désormais ils ont beaucoup de mal à faire ça. Oui. Ce qui fait que aussi bien leurs indicateurs d'inflation que les indicateurs de productivité sont extrêmement fragiles. Avec comme conséquence d'ailleurs, c'est que, alors ça peut être une transition, la politique monétaire qui est censée être liée à des données, oui, s'appuie sur des données dont les statisticiens américains disent en particulier qu'elles sont extrêmement fragiles. Donc on peut se poser quand même la question de, à la fois de la productivité et de la politique monétaire qui est assise sur ces données.
On va marquer...
c'est un point important parce que de plus en plus, ce partage volume-prix dont on parle peu parce que c'est un débat de statisticiens, il est devenu complexe, à la fois pour la localisation de la valeur ajoutée, avec les problèmes de numérisation, etc. Et dans le partage prix-volume, il y a la question de la mesure de l'inflation et ce qu'on appelle les indices de prix hédoniques. C'est comment vous intégrez bien le progrès technique dans les indices de prix. Et c'est important parce que ça paraît un débat technique, mais ça change tout sur la mesure de la productivité et de la croissance. Dans un cas, vous considérez que c'est de l'inflation, dans l'autre cas, vous considérez que vous créez de la valeur ajoutée en volume, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais c'est vrai qu'on... Je pense que possiblement, ça devient de plus en plus délicat de le mesurer correctement. L'INSEE fait très bien son travail.
Ce qu'on vient de dire, il est possible que tous les chiffres qu'on a soient parfaitement.
Non, mais on a le problème avec l'Irlande, par exemple.
Pas faux, mais approximatif. Mais voilà. Faux, c'est radical, comme expression.
Et c'est l'ancien économiste de l'INSEE qui le dit.
Oui.
L'INSEE fait un très bon travail.
Mais absolument.
Mais c'est devient de plus en plus difficile de mesurer correctement les choses.
Allez, on marque une pause juste après. On parlera du déficit, le dérapage des finances publiques, concours l'épine des mesures d'économie. On parlera aussi du logement social. Peut-être un mot rapide, mais est-ce que c'est une forme de pragmatisme ou de la démagogie de vouloir mettre un terme au logement social à vie? Et puis la carte blanche de chacun d'entre vous. Je le rappelle, on parlera du CETA, on parlera des multiplicateurs et on parlera des statistiques. La définition du mot statistique, je vous donne un indice. Ça n'est pas un mot d'origine anglaise. C'est Jean-Marc qui nous l'expliquera. À tout de suite.